Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des Ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeune fille, et surtout, je suis une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, je reçois Tida qui nous raconte avec émotion les préparatifs de son mariage de rêve. En plein Covid-19 et malgré une organisation à distance, ils ont réussi à faire de leur mariage le plus bel événement et surtout à rester soudés tout au long des préparatifs. Quand j'ai contacté Tida pour lui proposer de participer au podcast, elle a tout de suite été emballée. Elle qui partage beaucoup sur Instagram, l'idée de pouvoir raconter son histoire de vive voix l'a immédiatement séduite et j'avais vraiment hâte d'en savoir plus. Ce podcast vous plaît ? Pour le soutenir, c'est très simple, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute préférée, laissez un 5 étoiles et même un commentaire, c'est vraiment ce qui va m'aider à faire connaître le podcast. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Tida, bonne écoute. Bonjour Tida.
Hello.
Bienvenue à mon micro et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage.
Merci de m'avoir invitée.
Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Je t'ai contactée via Instagram. Ouais. J'ai découvert le récit de ton mariage que tu as partagé en quelques posts avec de très jolies photos.
Ouais.
Et j'avais très envie d'en savoir plus, donc merci d'avoir répondu à l'invitation.
Ben, merci de m'avoir invitée, c'est gentil.
Tu es parmi les premières invitées de ce podcast et surtout la première mariée que je reçois qui a réussi à maintenir son mariage malgré cette période Covid si particulière.
J'ai la pression.
Ouais. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour et de revivre tous ces préparatifs avec toi. Est-ce que tu es prête?
Je suis hyper prête.
Super.
Plus que prête.
Alors, pour commencer, peux-tu te présenter, nous faire un récap de ton mariage?
Ouais.
Quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités, le style de mariage ou le thème, s'il y en avait un?
Donc moi, c'est Tida, j'ai 30 ans. Bientôt 31, d'ailleurs, c'est mon anniversaire le mois prochain. Je suis avec Nico depuis presque 3 ans. On s'est mariés en Charente-Maritime, au logis de la Grosse Fière, un domaine hyper joli, bourré de charme au milieu des vignes. C'était le 20 juin 2020.
Et combien d'invités?
Et de base, on avait 120 invités.
Okay.
Ensuite, suite à l'envoi des faire-parts, on a réduit à 100. Et après, merci le Covid, ça a été réduit à 80 personnes.
Bon, on va voir ça justement. Voilà. Est-ce qu'il y avait un style ou un thème particulier?
On n'avait pas de thème en soi. Après, il y avait une présence assez importante de la couleur terracotta sur les tenues de nos témoins, demoiselles d'honneur et un peu dans la déco.
J'ai vu aussi qu'il y avait un deuxième mariage de prévu qui devait
être
début septembre.
Oui, oui, ça... oui. Ben, c'était notre cérémonie traditionnelle cambodgienne. En fait, de base, si tu veux, j'ai des amis de mes parents que je connais donc depuis que je suis toute petite, qu'on aurait aimé avoir au mariage. Mais bon, vu qu'on devait limiter la liste des invités, j'ai proposé à maman de faire un truc directement à Nantes. On a fait venir le Cambodge dans son jardin et on a fait une cérémonie traditionnelle.
D'accord.
Qui était très cool et en la présence donc de ces personnes que je connais depuis au moins 15 ans.
Ok, ça t'as pas trop partagé du coup sur les réseaux, non?
Non, pas encore.
Encore photo.
J'ai fait quelques stories, mais c'est vrai que...
J'ai vu passer l'info, mais je savais pas du coup si avec le Covid tout ça, ça avait eu lieu ou si c'était un projet.
Ok. Ça a eu lieu, c'était trop chouette. Après, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est maman qui a tout fait de A à Z, qui fait que j'ai moins partagé. Après, j'ai de très belles photos qu'un ami a fait, donc je pense que je les partagerai plus tard.
D'accord.
Voilà.
Ok, super. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Nico, le marié? Quand vous vous êtes rencontrés et comment s'est passée la demande?
Je dis pouf, mais parce que ça me provoque tellement d'émotions en fait. Nico, je l'ai rencontré le jour de mon brunch d'anniversaire, donc il y a 3 ans. Et c'était, j'étais pas du tout dans l'optique d'être avec quelqu'un. Enfin, j'étais trop blessée par mes relations précédentes. Et du coup, de manière assez imprévue, Il a apporté toute cette douceur et cet amour dont j'avais besoin. Il a tout chamboulé. Il a été vraiment la personne parfaite à ce moment-là et encore aujourd'hui. Pour le coup, c'est quelqu'un de très généreux, très tendre, hyper gentil, pas du tout patient, mais très passionné. Enfin, qui a tellement d'amour à donner. Donc, du coup, je reçois tout au quotidien. Et du coup, par rapport à la demande, en fait, il m'avait organisé un week-end en Italie. Parce que c'est vraiment ma destination préférée. Je parle italien depuis le collège. Et il m'avait organisé pour mon anniversaire un week-end à Stresa, pas loin de Milan. Sachant que j'avais dit que Milan, je détestais. Enfin, vraiment, c'était la ville que j'aimais le moins. Et j'ai vu la destination quand on est arrivé à l'aéroport. Et du coup, j'étais pas hyper emballée. Et quand il m'a dit qu'en fait, on louait une voiture, qu'on allait un petit peu plus loin pour notre week-end, c'était trop chouette. T'imagines quand tu vas sur la côte et que tu vois le plus grand et le plus bel hôtel? Eh ben, tu t'es complètement fasciné par les lumières extérieures, par la déco, etc. Et tu dis, bon, bah, moi, jamais j'irai là-dedans parce que j'ai pas les moyens ou parce que c'est un rêve peut-être un peu trop éloigné ou que je m'offrirai plus tard. Et en fait, on est allé là et c'était tellement magique. Enfin, il avait tout organisé, de la chambre à la bouteille de champagne, tout ça. Et je m'attendais pas du tout à une demande en mariage. C'était mon anniversaire, donc tu vois, je pensais juste à éventuellement un cadeau, mais pas une demande. Et en fait, il avait demandé au personnel de l'hôtel, après notre dîner au restaurant, si on pouvait privatiser les jardins de l'hôtel, rien que pour nous. On était sur l'embarcadère de l'hôtel qui était sur le lac Majeur, donc en fait, je m'attendais à ce qu'il m'offre mon cadeau à ce moment-là. Donc j'étais face au lac, nuit noire complète, et là il me dit « bon, t'es prête ?» Et je lui dis « oui ». Il m'a dit « vas-y, regarde ». Sauf que j'étais face au lac, il n'y avait absolument rien autour. Donc je regarde à gauche, à droite, il n'y avait absolument rien. Il me dit « non mais pas là, regarde là ». Et là je me retourne, il était à genoux. Je me suis mise à pleurer, mais tu sais pas le pleur très glamour, tu vois, tu pleures un peu bizarrement, pas de manière très élégante, t'es là, voilà. Et tu pleures sans pouvoir contrôler les choses. J'ai forcément dit oui. Et on est resté, je crois, trois quarts d'heure dans le froid, parce que c'était en novembre. Il me montre la bague, qui est celle-ci. Mmh. Et il me dit qu'en fait, c'est la bague de ma grand-mère, que j'ai perdue il y a quelques années. C'est ma mère qui lui a donnée. Il l'a fait retravailler à Paris. Et vraiment, on passe du tout au tout, mais il a gardé le saphir, donc la pierre de base qui était sur la bague. L'anneau a dû être changé parce qu'il n'était pas forcément de très bonne qualité. Les petits diamants qui étaient autour aussi ont dû être échangés pour d'autres. Et ce qui fait que la bague était à la fois unique, mais qu'elle a une histoire assez forte.
Mmh. Bon, la surprise était réussie alors.
La surprise était hyper.
Bravo Nico.
Plus que réussie, ouais. Elle est très très forte.
Super. Et combien de temps après la demande vous avez lancé les préparatifs? Est-ce que tu te souviens par quoi vous avez commencé?
J'ai commencé le jour même. Non, je plaisante. Le lendemain, j'ai commencé à regarder les robes de mariée.
Les robes
dans
tout de suite.
Temps. Ouais, ouais, immédiatement. Et j'ai eu envie de prendre mes rendez-vous de suite, etc. Sans, j'ai pas vraiment de personne autour de moi qui s'est mariée. Du coup, j'avais pas de conseils à demander auprès de mes copines. Puis de toute façon, en étant une passionnée du mariage depuis toute petite, si tu veux, t'as déjà une idée à peu près des marques qui proposent des créations. Donc, je connaissais juste de nom Rima Rodaki, Berta. Je connaissais aussi Margot Tardy, mais sans vraiment pousser la découverte de leur collection, tu vois.
Donc la robe avant le lieu.
Ouais.
Robe directe.
Ouais, robe directe. Okay. Robe directe parce que apparemment je m'investissais pas assez dans le mariage. Donc c'est ce que Nico m'a dit, parce que ça a été le premier à regarder les domaines. Moi pas du tout, j'étais concentrée sur ma robe. Et lui était à fond sur les domaines, moi je m'en fichais un peu. Et un jour il a osé me dire, je trouve que tu t'investis pas assez dans le mariage. Bah ni deux, moi tu me le dis pas deux fois. Je me suis lancée dedans et puis après j'ai plus jamais lâché. Sachant que, en fait, le domaine, il était ni sur les sites comme mariage.net ou ZenQ, machin. Nico, il l'a trouvé sur Airbnb.
Avec une annonce mariage, quand même, ou...
Pas du tout.
Pas du tout.
En fait, de base, t'avais pas de salle de réception. C'était un domaine, c'était un gîte. Enfin, un gîte, un logis. Ils appellent ça un logis. Mm-hmm. Et qui pouvait loger 32 personnes. Sauf que la salle était en cours de construction et on était, tu vois, début 2019. Donc la salle a été terminée en avril. Le frère de Nico se mariait en septembre 2019. Et donc Nico, qui l'aidait, puisqu'il était témoin, l'aidait à chercher des domaines. Il était tombé dessus. Finalement, ça ne l'a pas fait pour le frère de Nico. Donc tu vois, il l'avait gardé en tête, mais nous, on ne l'avait pas du tout mis dans notre liste. même au niveau de nos critères, qui de base était un lieu convivial et chaleureux, type une grande maison dans laquelle on pourrait inviter tous nos proches et faire comme si on les invitait chez nous, en fait, tu vois.
Mais donc la salle était en construction.
Ouais, la salle était en construction, donc on ne l'avait pas vue quand on l'a signée.
Et vous étiez sûre que ça allait être fini, construit pour votre mariage,
ouais.
Ou c'était en suspens, c'était...
Bah, écoute, il disait que la salle devait être terminée pour avril 2019. On se mariait en juin 2020, on s'est dit au pire, s'il y a du retard, on a de la marge quand même. Et sachant qu'on a eu un gros coup de cœur, non seulement pour le domaine, mais aussi pour la propriétaire. Elle est exceptionnelle.
Tu peux redonner le nom?
Ouais, c'est le logis de la Grosse Pierre, situé à Ars, dans le 17. Et la propriétaire, elle s'appelle Angélique Loiseau, et elle est fabuleuse.
Super. Donc, une fois que le lieu était trouvé...
Oui. Ensuite, on s'est penché sur la question du photographe et du DJ. Dans un premier temps, le photographe, parce que j'avais envie d'avoir des photos assez chaleureuses, assez naturelles aussi. Pas fan des photos très contrastées. Et j'étais un peu relou pour la recherche. Donc,
comment t'as trouvé justement, comment t'as commencé à chercher sur Instagram,
ouais,
les sites
Au début sur Instagram. Mm-hmm. Après, tu vois, avec le hashtag photographe mariage, tout ça, j'ai regardé par ce biais-là. Et en fait, c'est par le biais d'un ami de Nico qui vit à Bordeaux. Et qui connaissait donc une nana qui s'était lancée, qui est hyper sympa, elle s'appelle Marie Gonzalez. Et en fait, j'ai regardé son compte Instagram qui était hyper joli. On l'a rencontrée, on est descendu à Bordeaux pour la voir. Et son copain était DJ. Il mixait dans une boîte à Paris qui apparemment était très connue et très sympa. Et du coup, c'était plutôt pas mal, tu vois, d'avoir le pack DJ plus photographe. Ils pouvaient s'entendre, aller directement sur le domaine ensemble, prendre un logement pour deux, tu vois, ça facilitait tout. Et pour le coup, elle était tellement gentille que j'étais obligée de valider. Enfin, si t'aimes son travail artistique et que t'aimes la personne, c'est tellement important en plus de bien s'entendre avec ses prestataires.
Donc t'avais photographe qui,
ouais,
vous a suivi toute la journée.
Ouais. En fait, elle a, dans son pack, elle comprend une séance d'engagement.
Okay.
Et ça, c'était trop chouette, mais on n'a pas pu la faire avant. Question d'organisation, on a complètement zappé. Et du coup, on l'a fait la veille du mariage.
D'accord.
Et c'était trop chouette. Et au moins, ça nous exerçait un peu pour le lendemain.
T'avais d'autres animations photos de prévues? Un photo booth ou un
Ouais, on a pris une bande photo chez VIP Box. Et en fait, je travaillais à l'époque chez Hiro, une marque de prêt-à-porter assez haut de gamme, je sais pas si tu connais.
Hiro.
Ouais. Mm-hmm. On avait pas mal d'événements avec le CE et ils passaient justement par cette entreprise-là, VIP Box. Et ce que j'ai apprécié, c'était la qualité des photos et le fait qu'elles s'impriment hyper vite. Quand t'as du monde qui veut faire des photos, bah t'as pas besoin d'attendre, c'est hyper rapide, tu prends pas la tête, et en plus de ça, t'as le choix du format, t'as la personnalisation aussi qui va avec. Bon, le site est franchement mal fait, mais
ouais,
sinon, pour le reste, c'était top. On l'a récupéré auprès d'un espèce de point relais, mais c'était dans l'appart d'un mec à Sainte. On a juste eu un problème de contre-jour par rapport à là où on avait prévu de la poser. On n'y avait pas pensé. En fait, c'était sous un préau. Et si tu veux, on n'avait pas pensé au fait qu'il y ait un contre-jour. Donc finalement, on avait prévu un décor, mais qui servait un peu à rien. Donc on a dû juste la tourner. On n'a pas pu déplacer le décor avec.
Ah, okay.
Et tant pis, on s'est dit, bon, c'est pas grave pour le fond. C'est pas hyper joli.
On voit bien le fond, de toute façon, sur ce genre de box.
Ça dépend si les personnes sont nombreuses ou pas.
Ouais. Et si t'es proche ou pas aussi.
Et si t'es proche ou pas. Il y a des photos où on les voit, d'autres non, mais très sincèrement, on n'y fait pas très attention.
Et pour la photographe, du coup, vous aviez prévu des photos en particulier ou c'était fait un peu au feeling, tu sais, façon photo-reportage, comme ils appellent ça?
C'était au feeling. On n'avait pas de demande particulière auprès de la photographe, sachant que moi, je suis pas du tout à l'aise derrière l'objectif, enfin devant. Enfin, on n'avait pas d'inspiration particulière. On savait pas ce qu'on voulait exactement, donc ça, tout a été fait au feeling.
T'as laissé,
Et ouais, ce qui était chouette, c'est que immédiatement, elle a su nous guider. Elle nous a dit, ok, mets ta main ici, etc. Ok, tente un truc, dis-lui un truc dans l'oreille pour qu'il rigole, ou un truc drôle, ou positionne-toi comme ça. Et finalement, c'était pas plus mal, parce que si t'es un peu coincé en photo, ben, laisse-toi guider. Et si t'as une bonne photographe, je crois que ça se voit sur les photos de notre séance d'engagement, surtout. Parce qu'au niveau du mariage, on était pressés, tu vois, on devait vite... faire les photos de couple et tout, donc on en a fait quelques-unes, mais vraiment mes photos préférées, c'est celles de la séance d'engagement. Elles sont vraiment, vraiment canon. C'était sur la côte, vers Talmont-sur-Gironde, si je me trompe pas, Et c'est assez drôle parce que habituellement, t'as des petits chemins qui sont bien créés pour que tu puisses accéder à ces espaces-là. Sauf que là, avec le Covid, tout avait été laissé un peu à l'abandon, donc c'était très sauvage. Et donc, moi, j'avais mes talons et on a dû enjamber des herbes assez hautes pour aller jusqu'au point où la photographe voulait faire la séance. Et je sais pas combien de fois j'ai manqué de tomber. C'est trop drôle.
T'avais quoi comme tenue justement?
J'avais ma tenue de brunch,
Ok.
une robe blanche que j'avais prise chez les loulous de boutique.
Et lui, il est habillé comment?
Et lui, il avait son costume, un costume qu'il avait porté pour le mariage de son frère.
Ok, donc pas les tenues du jour J.
Non.
C'était quand même la surprise le jour même.
Ouais, complètement.
Super. Et alors maintenant, vous en avez fait quoi des photos? Vous avez imprimé, fait un album, c'est en cours.
En fait, j'ai l'impression que si j'imprime, que je reçois les photos, que tout sera terminé. Donc là, tu vois, j'ai terminé mon récit un peu à la va-vite, parce que j'ai du mal à achever tout ça. Et je crois que le fait de recevoir l'album photo, ça concrétise vraiment la fin. Donc je me laisse le temps et je verrai ensuite ce que j'en fais. Mais oui, un album photo, c'est prévu. Hein. Je l'avais commencé sur Rosemood. Je sais que je le ferai. C'est que j'ai pas envie de tourner la page encore sur tout ça, donc je le ferai quand je serai prête.
Super. T'avais prévu un vidéaste à côté?
J'avais pas du tout prévu initialement de vidéaste. Nico estimait que ça ne servait à rien, dans la mesure où on avait déjà un photographe, qu'on avait la borne photo, que c'était suffisant parce que tout le monde allait prendre des photos avec leur téléphone, etc. Sauf que moi, pour revivre le moment, je trouvais que rien n'était mieux qu'une belle vidéo. Et je ne regrette absolument pas. Au contraire, je conseille. Et c'est vraiment dans ces vidéos-là que je retrouve l'ambiance, la déco et toutes ces émotions que j'ai vécues cette journée-là. Mmh. Et enfin, ça m'arrive, je crois que je l'ai même encore regardé hier ou avant-hier, mais que je retombe dessus par hasard parce que je l'ai posté sur mon Facebook ou sur mon Instagram et que finalement je reclique dessus, mais parce que j'ai vu que quelqu'un l'avait commenté, et ben du coup je m'enfile toute la vidéo en entier et je suis beaucoup trop contente et je les adore encore plus que les photos, vraiment.
Ça a été facile de trouver le vidéaste? T'en as cherché plusieurs? Comment t'as fait ton choix?
J'ai demandé conseil auprès de la propriétaire de notre domaine, qui m'a redirigée vers notre vidéaste, qui en soi démarré sa carrière en tant que vidéaste et qui a réalisé un montage absolument parfait. Si tu veux, je regarde beaucoup de vidéos de mariage, j'adore ça. De manière générale, que ce soit des personnes que je connaisse ou pas, j'adore les regarder. Je trouve que c'est hyper important qu'elles montrent qu'il y a un vrai travail derrière. Que c'est pas juste une personne qui est venue, qui a fait ça avec un drone. Mais là, on sent vraiment qu'il y a la signature et la touche professionnelle derrière et qu'il a passé beaucoup de temps dessus. Et ce que j'apprécie aussi, c'est les vidéos ralenties qui procurent encore plus d'émotions, qui nous permettent de nous reprojeter dans ces moments-là. Et il a vraiment réussi à retranscrire cette vidéo à travers les moments les plus forts. Même des trucs auxquels j'avais pas assisté, que j'ai découvert dans la vidéo. Et je sais pas combien de fois j'ai pleuré devant les vidéos qu'il a créées, mais j'en suis plus que satisfaite. Et je recommande 15 000 fois à quiconque qui hésiterait sur un vidéaste d'en prendre un.
Et Nico, alors finalement, convaincu?
Nico est à 100% convaincu, même 200%. Il est d'accord avec moi sur le fait que la vidéo retranscrit beaucoup mieux le mariage que les photos.
Super.
Enfin, c'est vraiment deux dimensions différentes pour le coup.
Donc, photo, DJ dans un pack en commun. Est-ce que le DJ, t'as des choses après à nous partager?
En fait, le DJ, de base, il était top. Il nous a fait des super recommandations, il nous avait préparé des playlists qu'il nous avait envoyées à l'avance et tout, il était super. Il avait vraiment compris notre univers musical, sachant que Nico et moi, on a des préférences musicales vraiment différentes. Pour le vin d'honneur, il nous avait fait une sélection de musique un peu bossa nova, musique un peu latine et tout, à la cool. Et on lui a aussi filé on lui a donné une liste dans laquelle on avait mis, tu vois, les musiques qu'on adorait, en plus des musiques qu'on voulait absolument pour le vin d'honneur, pas pour le vin d'honneur, pour la cérémonie laïque, pour nos entrées, etc., qu'il devait absolument passer et dans quel ordre. Et sinon, au niveau des playlists, ouais, on lui a donné les artistes qu'on aimait bien, on avait créé des playlists sur Deezer histoire de lui donner des pistes, et logiquement, tout devait bien se goupiller, sauf que...
le jour J, dis-nous.
15 jours avant, il nous a laissé tomber.
Ah non.
Ouais.
Pourquoi?
Comment te dire? J'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que finalement, pour lui, d'un point de vue professionnel, il avait envie de respecter une certaine éthique. et se dire que notre mariage allait se tenir le 20 juin, donc juste après le déconfinement, qu'il avait contacté la préfecture de Charente-Maritime pour savoir si éventuellement ce serait possible ou pas. Ce qui m'a, en soi, les démarches, elles sont bonnes, mais ce qui m'a dérangée, c'est que à chaque fois qu'un discours était fait, enfin qui était fait à la télé, il m'appelait dans la foulée et c'était hyper anxiogène parce qu'il voyait plus le problème et pas forcément la solution.
Donc pour lui, Covid disait c'est bon, le mariage s'est annulé, ouais. Et il n'était pas pour être sur place
pas
et animé.
Non, pas du tout, et on l'a ressenti dès le début. On a senti qu'il était, pas partant, qu'il était persuadé qu'on avait reporté, parce qu'on avait quand même une date de report dans le cas où, en juin, ça n'aurait pas été possible. Du coup, il s'était vraiment fixé sur cette nouvelle date. Et quand on lui a dit, non, on va vraiment se marier le 20 juin, on va le faire. Ça a été le seul de tous nos prestataires qui a été très froid, et qui a vraiment vu le problème et non la solution. Donc quand, par exemple, on te dit piste de danse interdite, j'ai dit, bah ok, pas de problème, on va danser dehors. Mais il n'y avait pas pensé. Et tu vois, moi, je préférais recevoir des recommandations de sa part plutôt que ce soit à moi de les faire, puisque je ne suis pas la professionnelle.
Donc, il vous a dit, cash, je ne serai pas là au mariage 2 semaines avant.
Il nous l'a dit, il nous a dit, je me renseigne et je reviens vers vous. Concrètement, vu qu'il était en couple avec la photographe, j'ai aussi eu besoin d'être rassurée et de savoir si...
Elle serait là,
exactement.
Bien sûr.
Et donc elle m'a confirmé, oui, pas de problème, elle portera un masque, etc. Et en soi, ça me dérange pas du tout hein, qu'elle porte un masque, au contraire. Mais par contre, lui, pour le coup, il est derrière ses platines. Logiquement, il dérange personne et il est en contact avec le moins de personnes par rapport aux autres prestataires. Et, mais c'est vraiment d'un point de vue éthique, je pense qu'il n'a pas voulu être présent ce jour-là. Donc il nous a laissé tomber, il m'a remboursé. Et donc là, ça a été vraiment la course pour en trouver un autre qui en soi n'a pas été hyper satisfaisant, mais au moins il a été présent.
Donc en 2 semaines, t'as réussi à trouver ton DJ?
Ouais. Enfin,
en plus d'autres, disons, de toutes les autres choses que tu devais gérer.
Exactement. C'est-à-dire que j'ai fait une story sur Instagram pour dire « Alerte, SOS, aidez-moi, on n'a plus de DJ, j'ai besoin d'une nouvelle personne. » Donc j'ai eu énormément de soutien par les filles. Enfin, franchement, je ne les remercierai jamais assez d'avoir autant partagé l'information. Et j'ai reçu une liste absolument énorme de DJ, même des DJ de boîte, tu vois, qui n'exerçaient pas à cause du Covid à ce moment-là, auxquels j'aurais jamais pensé. Donc, j'étais prête avec ma liste à les contacter, etc. Et Nico, qui est de la région, il a aussi fait jouer ses relations. Il est tombé sur une personne qui participe pas mal au festival, enfin, un festival assez connu en Charente-Maritime, à Sainte, qui s'appelle le Coconut Festival Music. On l'a rencontré dans une ambiance très conviviale, bière frite, à la cool, machin. Il n'avait jamais fait de mariage, mais il était partant, il avait l'air hyper investi, il s'était renseigné pour les jeux de lumière, éventuellement une machine à fumer, une boule à facettes, et moi l'argument boule à facettes, je valide complètement, je suis trop fan. Et c'est surtout qu'il ne nous a pas posé de problème sur toutes les mesures à prendre, si nécessaire, etc. Et finalement, dans ces cas-là, t'as envie de prendre n'importe quel prestataire. Tu te dis, allez, au pire, je m'en fiche. Il n'a pas fait l'affaire, hein, concrètement. Mais on a quand même passé une super journée. Il y a eu des couacs par rapport à la musique. Mais en soi, c'est pas grave. On l'a tellement bien vécu, cette journée, que... on préfère ça plutôt qu'un DJ qui nous aurait planté ou qui aurait dit « Ah non, écoutez, là, il est 1h du mat, je vais devoir arrêter la musique. » C'était bien mieux. Donc ensuite, on s'est penché sur la question du traiteur. Au début, j'avais une envie de quelque chose de hyper raffiné, mais après, on a vu le budget et on s'est calmé, clairement.
Le lieu, déjà, proposait pas de traiteur référencé.
Le
pas
lieu
truc.
M'avait suggéré une liste.
Ok.
Et après, il n'imposait absolument rien.
Mais c'est, des traiteurs qui connaissaient, qui
ouais,
avaient l'habitude d'être
qui
sur place.
Après, ça faisait pas longtemps, tu vois, qu'ils avaient lancé la salle de réception, donc vraiment depuis avril 2019. Donc, on a vraiment pu échanger à ce sujet un peu plus tard dans l'année 2019. Au niveau du traiteur, ça s'est fait notamment parce que c'était le traiteur du mariage du frère de Nico et qui était top. Mais en plus de ça, c'est un prestataire qui était hyper arrangeant. C'est-à-dire qu'on lui a demandé d'avoir 3 plats différents, à savoir un poisson, une viande, un végé. Il s'est adapté, il apportait les nappes, la verrerie. Pour le vin d'honneur, il nous a fait une proposition d'assortiment. On a pu changer tout ce qu'on voulait. On voulait des pièces, enfin des bouchées végétariennes et d'autres qui ne le seraient pas. Il a été à l'écoute. Ça a été un super traiteur, très réactif. Donc c'est Philippe Go qui est situé à Saintes. Et en plus de ça, d'un point de vue rapport qualité-prix, il est top.
On mettra toutes les références à la fin du podcast. Là. C'est ça vraiment marche. Le truc super utile.
Ouais.
On veut toute la liste des prestataires pour retrouver en un clic. Donc on mettra tout ça.
Ça marche.
Combien de dégustations vous avez fait? Parce que du coup, vous n'êtes pas sur la région. À chaque fois, c'est des allers-retours.
Ouais.
En pleine période Covid, j'imagine aussi que ça a ramassé un peu de contre-temps.
Tout à fait. On n'en a fait qu'une. Et c'était la semaine avant le mariage. C'était vraiment histoire de faire une dégustation et d'être sûre des plats qu'on allait proposer.
Donc le jour J, tout était parfait, comme vous aviez imaginé.
D'un point de vue traiteur, c'était super. Génial.
Et pour le dessert pâtissier, tu m'en parlais tout à l'heure.
Alors, pour le pâtissier, c'est une autre histoire.
D'accord.
Il y a un pâtissier très réputé à Saintes, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de mauvaise pub. Mais on avait une demande assez particulière. Et avec le recul, je me dis que cette demande était un peu trop particulière, qu'on aurait dû rester très simple.
C'était quoi?
Mais en fait, on avait voulu des mini naked cakes. Parce que tu vois, les naked cakes, les grands naked cakes en soi, tu les vois aujourd'hui dans les anniversaires, dans les baby showers, etc. Et donc, je voulais vraiment un gâteau qui allait se démarquer, qui soit moins vu.
Donc, c'était en version miniature, en individuel.
Exactement. Et avec une petite rose sur chaque gâteau. Donc, on avait des inspirations assez précises qu'on a transmises auprès du premier pâtissier. On en a testé 3 au total, je crois. Ce qui était chouette, par contre, c'est qu'on a fait les dégustations avec mes témoins et demoiselles d'honneur et quelques amis de Nico. Donc ça, c'était plutôt chouette. Le premier essai était intéressant, c'était juste pour choisir le goût. Et ensuite, on en a fait plusieurs. On a fait peut-être 4 essais au total, mais c'était toujours très décevant. On s'attendait vraiment à avoir le prototype final, parce que finalement, c'est difficile de se projeter si c'est juste sur le goût. J'avais vraiment besoin d'avoir le visuel pour être sûre de bien valider et ensuite d'être certaine que ce prestataire serait capable de les faire. Et donc chaque dégustation était décevante, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une seule dégustation qui était satisfaisante ou via laquelle on s'est dit ah oui là c'est pas mal, on tient le bon bout, peut-être que la prochaine sera bonne. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 3-4 dégustations, exactement, faut choisir, ça commence à devenir stressant. En plus, avec le Covid, c'est finalement les parents de Nico qui se sont prêtés au jeu pour les faire, donc c'était assez rigolo. Et finalement, donc on n'a pas validé ce premier pâtissier, même si on portait tous nos espoirs sur lui. On s'est redirigé vers une toute petite boulangerie-pâtisserie qui ne paye absolument pas de mine dans une ville très proche de Saintes. Et on a montré au pâtissier 2-3 photos et il nous a dit immédiatement « Bah ouais, ok, pas de problème, qu'est-ce que vous voulez comme parfum ?» Ça a été très très simple. En termes de prix, c'était absolument dérisoire par rapport aux autres prestataires qu'on avait contactés. Et dès le premier essai, ça a été très satisfaisant.
Ok.
Donc finalement, on s'est dit, c'est pas parce qu'une personne est dans le domaine depuis plusieurs années qu'il faut forcément passer par lui et finalement laisser la chance à d'autres pâtissiers qui peuvent complètement faire le boulot. Mmh. Et c'était chouette.
Et comment vous êtes organisés pour avancer sur le mariage tous les deux? Est-ce que chacun avait son domaine? Est-ce que vous avanciez en même temps dans l'organisation ou...
On va dire que c'est pas son truc.
Du tout. C'était... Le mariage?
Non. Pas le mariage, mais l'organisation de cet événement.
Mm-hmm.
De trouver des idées, de prendre le temps pour l'organiser. Il a adoré les do-it-yourself, confectionner nos petites enveloppes pour les faire part. Il s'est énormément investi là-dedans. Mais tout ce qui était recherche sur Internet, d'inspiration, d'idées même pour le gâteau ou pour son costume, ça a pris du temps. Donc c'était beaucoup plus le mien et finalement tu vois je me dis que c'est clairement mon truc et que j'ai adoré le faire, mais ça a été un sujet principal de petits conflits pendant quelques semaines
sur les choix à faire ou sur
le manque d'investissement de sa part. Après tu vois aujourd'hui je lui en veux pas parce que finalement ça m'a fait tellement plaisir de l'organiser et qu'ensuite j'ai les retours de mes invités, les compliments de mes invités qui m'ont dit « Ah ça c'était chouette,
tu les prends personnellement super, du coup. »
Je les prends complètement personnellement et j'en suis ravie.
C'est normal. Et globalement, est-ce que tu dirais que vous étiez plutôt serein ou du style assez stressé pendant tous les préparatifs?
Hyper serein.
Hyper serein.
Ouais, très très serein.
Pourtant, en parlant de stress, comme je disais tout à l'heure, tu es la première mariée que j'interviewe qui a réussi à maintenir son mariage dans toute cette période là de Covid, crise du Covid. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment vous avez géré tout ce stress, l'incertitude? Est-ce que y a une période où ça a été peut-être un peu plus tendu qu'une autre? Comment ça s'est passé?
Ça a été très dur. Très honnêtement, je pense que c'est, même si c'est moi la plus positive de notre couple, c'est Nico qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Et c'est lui qui avait vraiment envie de maintenir cette date. Il m'a dit non, le 20 juin, c'est notre date. Après, on a tellement de choses à faire que il faut le faire à ce moment-là. Et puis, de toute façon, on est en plein confinement, on ne sait pas, on verra. Et je lui ai fait confiance. Même si c'était dur, j'ai beaucoup pleuré. On a eu pas mal d'incertitudes qui se sont mêlées aux messages de nos proches qui disaient bon alors, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est annulé ou pas? Est-ce que vous reportez ou pas? Moi, je connais un tel qui annule son mariage et je connais un tel ou deux qui a un cousin qui bosse à la mairie, deux trucs muches, qui n'organise plus du tout de mariage, etc. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était de nous rassurer auprès de nos prestataires, de les contacter, mais pas, tu vois, on les a pas contactés en mars. On a attendu, je pense, on a pris la température vers avril pour
Ils ont su vous
savoir
répondre eux, parce que
si...
j'imagine qu'ils étaient aussi un peu dans le
Ouais,
flou.
complètement. Ben, si tu veux, ils n'avaient pas les réponses à nos questions, mais en soi, l'idée était, si on maintient joint, est-ce que vous nous suivez ou pas? Donc la plupart nous ont dit oui, et ils nous ont reconfirmé ça après le déconfinement, et notre DJ nous a laissé tomber.
Donc à
Mais
part
si...
le DJ, tout le monde
Ouais.
suivait, quoi.
Ouais, exactement.
Ok.
Et ils ont été top.
Bon.
Vraiment.
Est-ce qu'il y a quand même un moment où vous avez hésité à tout abandonner, à tout reporter à plus
Ouais.
tard et...
Complètement. On s'est fait carrément une soirée où on s'est pris une feuille chacun et on a posé les pour et les contre. Et ensuite, on les a partagés. On s'est demandé si vraiment c'était des vrais arguments ou pas, parce que juste se dire, bah, c'est notre date, c'est pas un argument viable pour maintenir un événement aussi important avec autant de monde, surtout dans une situation pareille. Faut aussi penser sécurité et faire preuve d'altruisme un minimum. Ouais, je crois que j'ai encore la photo de mes notes qui indiquaient mes pour et mes contre.
Et alors, dans les pour, le fait de garder la date,
Ouais.
est-ce que tu te souviens les arguments les plus forts, ce que c'était?
C'était que de toute façon, qu'on se marie le 20 juin ou plus tard, dans tous les cas, que nous on n'avait pas la réponse, que les craintes sont toujours là et qu'on n'y pouvait rien. Finalement, je me disais que si je repoussais à l'année suivante notre mariage, enfin la cérémonie laïque, etc., j'avais peur de m'essouffler, de plus avoir cet engouement et j'avais besoin de tout ça finalement pour l'organiser. Mais après, en gros argument, c'était que on n'a pas fait ça pour rien. Ça fait pas un an et demi que je travaille sur le mariage pour finalement tout reporter à l'année d'après. Et je sais que j'aurais changé 15 000 fois d'avis. Que si nos proches nous suivent, ben on y va. Même si on doit perdre la moitié de nos invités, tant pis. Même si les personnes veulent porter des masques ou prendre des précautions nécessaires, ben qu'ils le fassent. Et nous aussi, de toute façon, on fera le nécessaire de notre côté. Et voilà.
Et à partir de quand vous avez été sûr de pouvoir maintenir le mariage?
En fait, on a envoyé des textos à tous nos proches pendant le confinement pour leur dire, parce qu'on en avait marre de recevoir des messages, pour leur dire qu'on n'avait pas les réponses à ces questions, qu'on prendra une décision fin mai, début juin, et que pour l'instant, on continuait de préparer tout ça, mais que si jamais il y avait une annulation du mariage ou un report, qu'on les tenait informés. Donc, tout s'est fait à la fin par message. Et on a laissé je crois, jusqu'au 5 juin à tous nos invités pour nous apporter une réponse et nous dire s'ils seraient présents ou non.
Et alors, il y a eu beaucoup de désistements. Comment ça
Il y a
s'est passé?
eu 22 désistements au total et c'était surtout des personnes du côté de Nico, malheureusement. Enfin, non pas que j'aurais préféré qu'il y ait moins de personnes de mon côté, mais quand il y a un déséquilibre comme ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais quand j'y repense, je me dis que finalement, c'était les plus proches qui étaient présents. C'est ceux qui avaient vraiment envie d'être présents pour nous qui étaient là. Et je regrette absolument pas.
Donc jusqu'au 5 juin, c'est ça, tu avais demandé les réponses avant le 5 juin. Entre le 5 juin et le 20 juin, date de
Ouais,
mariage,
ouais.
comment ça se passe?
C'était la course.
Ouais, j'imagine.
C'était
Est-ce
la
que tout
course
était
parce
prêt? Est-ce que vous
que...
avez réussi quand même à bien avancer sur l'organisation pendant le confinement? Parce que j'imagine qu'on, dans cette période-là, on laisse un peu les choses passer et on met un peu en stand-by, en fait, la
Ouais.
préparation. On a du mal à se projeter si on
C'est
n'est pas sûr de le
tellement
faire.
difficile de se relancer, de retrouver l'envie de tout préparer. Tu perds complètement ta motivation quand tu n'arrives plus à te projeter ou à concrétiser les choses. Je trouve que c'est tellement difficile. Donc finalement, j'avais tout laissé en suspens pendant le confinement. Et ce qui a été compliqué, enfin ce qui nous a compliqué la tâche, c'est qu'on avait de la décoration chez ma maman à Nantes, un petit peu en Charente-Maritime chez les parents de Nico et on avait aussi chez nous.
À Paris.
À Paris.
Ok.
Sauf que, si tu veux, pour avoir la décoration finale, ben, par exemple, j'avais mes panneaux de direction qui étaient à Nantes, mais qui n'étaient pas montés encore sur le pied, et mes textes à la silhouette pour mes panneaux de direction, ils étaient avec moi à Paris. Donc, rien n'était assemblé. Tout s'est fait à la dernière minute, et dès qu'on a su qu'on pouvait partir, en fait, à partir du moment où on a su que la limitation des 100 km n'était plus imposée, on s'est dépêché pour s'organiser et aller en Charente-Maritime au plus vite. On est parti fin mai, et moi j'ai dû faire un aller-retour rapide à Paris pour récupérer ma robe auprès de la personne qui me l'a confectionnée.
Donc la robe n'était pas finie non plus, non. T'as pas pu faire les derniers essayages pendant le confinement?
Non. On a attendu le déconfinement pour en faire un. On a rencontré un petit souci par rapport à la jupe, donc du coup, il y a eu une modification à faire, mais une modification assez importante sur toute la jupe, donc j'ai dû racheter du tissu pour tout refaire. Et finalement, j'ai refait un essayage, je crois, 15 jours avant le mariage. Et cette journée-là, j'ai pu récupérer ma robe. Donc on a fait vraiment les toutes dernières touches sur moi, et ensuite je l'ai prise.
Et j'imagine que vous avez dû aussi adapter les fameuses mesures barrières le jour J. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait le port du masque obligatoire déjà?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, on a déjà fait en sorte que toutes les chaises de la cérémonie laïque soient séparées de 1 mètre, sachant que c'était en extérieur. Au niveau de la mairie, c'est assez rigolo parce que c'est une toute petite mairie d'une toute petite ville. Et en fait, c'est comme une maison individuelle de plein pied. Donc normalement, tout le monde devait entrer dedans. Sauf qu'avec le Covid, il y a eu de nouvelles mesures. On a été restreint à faire entrer seulement 10 personnes à l'intérieur de la mairie. Sauf que choisir parmi mes proches, si tu veux, je suis hyper proche de toute ma famille entière. Donc on a dû faire un choix. Et le matin même, l'adjointe au maire m'appelle pour me dire qu'en fait, on va pouvoir faire entrer 20 personnes au lieu de 10. Et en fait, le reste de nos invités étaient aux fenêtres. Et c'était tellement drôle, parce que tu sais, dans la mairie, habituellement, t'es face au maire et à l'adjoint au maire, éventuellement. Et tous tes invités, ils sont dans ton dos. Ils sont derrière toi, tu ne les vois pas. Et sauf que là, c'était assez rigolo, parce que pendant la cérémonie civile, je pouvais jeter des regards vers les fenêtres et en croiser, avec ceux de nos invités. Et finalement, c'était rigolo parce que je me souviens encore d'avoir croisé le regard de la copine de mon demi-frère Kevin. Donc, elle s'appelle Anastasia. Et tu vois, c'était des regards un peu complices, assez chouettes. Et finalement, c'était pas plus mal d'avoir une cérémonie
comme ça. Donc, les fenêtres étaient ouvertes. Ils étaient dehors, mais vues sur l'intérieur.
Exactement.
Et comme ça, un peu avec vous aussi.
C'est ça.
Très bien.
Ouais.
Donc, après la mairie, vous êtes allée au lieu de réception tout
exactement,
suite.
Je me suis changée. Il y a eu la cérémonie laïque et par rapport aux mesures barrières, donc pour revenir à ta question, au niveau du traiteur, il nous a dit clairement que ça allait être compliqué à gérer, mais qu'il n'avait pas du tout envie de faire le flic. Tu vois, le vin d'honneur était à l'extérieur. Finalement, je pensais à une solution, que chacun ait son assiette et qu'il y ait toujours une seule personne qui serve et qui utilise, tu sais, une pince pour faire le service. Et finalement, au niveau des plateaux de service, tout était bien éparpillé, bien séparé. Donc quand tu prenais une bouchée, t'étais sûre de ne pas toucher celle d'à côté. Donc il y a eu ça, et au niveau de la salle de réception, donc forcément il y avait 1 mètre d'espace entre chaque chaise et pas plus de 10 personnes par table.
Et après, partie soirée, comment on fait pour garder les distances?
Eh bien, on ne fait pas.
Okay. Non, mais c'est honnête, très
bien.
On ne fait
pas. Honnêtement, chacun était responsable.
Il n'y avait pas encore trop de tests à cette époque-là. On ne pouvait pas se faire tester avant d'aller au mariage.
Tu pouvais, je ne sais plus, à l'époque.
Ça fait quelques mois.
J'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. Mais t'avais pas l'accès aux tests Covid, en tout cas, n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui.
Parce que maintenant, les filles que j'ai en atelier, là, les EVJF, elles se font toutes tester avant d'aller au mariage. Et si, quand tu reçois le test, s'il y a un moindre risque, un moindre doute, tu vas pas du tout au mariage. Comme ça, t'es plus ou moins sûre. En tout cas, ça enlève quand même pas mal de doutes. Les gens qui sont sur le mariage, tu vois, présents, ils ont fait le test et ils sont négatifs.
Mais à l'époque, comme tu dis, c'était pas encore aussi
accessible.
Non, on était dans le déni complet. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, bah voilà, il y aura une soirée dansante, on va la faire à l'intérieur. Mais en gros, c'était pas un espace confiné, si tu veux. Donc, tu avais beaucoup d'espace en haut, sur les côtés. Et finalement, chaque personne est responsable. Donc, si tu veux pas trop te coller...
Et honnêtement, est-ce que vous y avez pensé pendant le jour J, pendant que vous y étiez au mariage? Est-ce que vous avez pensé peut-être que dans quelques jours, quelqu'un va être positif et on risque d'avoir un cluster, comme ils appellent ça?
On y a pensé, bien sûr. Après, t'es tellement prise par l'engouement et par l'organisation de la journée que t'y penses pas. Mais bien entendu que cette pensée-là m'a traversée dans la journée. Après, quand tu vois, t'as des invités qui sont hyper à l'aise, qui ne sont pas distants. Il y a juste la mamie de Nico qui est venue, qui n'est pas venue au dîner, ce qui est complètement compréhensible. Elle est venue avec son masque, etc. C'était la seule qui est venue avec un masque, mais on n'obligeait personne à ne pas en porter. Mais en soi, si quelqu'un voulait venir et porter son masque, ben ça nous dérangeait pas du tout, en fait. On n'était pas du tout contre. On préfère qu'ils soient présents et qu'ils prennent leurs précautions nécessaires plutôt qu'ils nous disent immédiatement « non, on veut absolument pas venir ».
Et pour fermer cette parenthèse Covid, est-ce que là, avec le recul, tu penses que c'était le bon choix de le faire cette année, malgré les restrictions, malgré le stress dans l'organisation de dernière minute que vous avez eu, malgré les personnes qui n'ont pas pu être présentes? Ou bien est-ce que tu referais différemment?
Je referais tout pareil.
Très bien.
Ouais, tout pareil et...
C'est le principal.
Ouais, exactement.
Bon. Ok, est-ce que tu veux bien nous parler du déroulé du jour J, mais dans les très grandes lignes? Okay. On va voir après les prestataires un peu plus en détail au fur et à mesure du podcast.
Ça marche.
Mais juste nous expliquer comment s'est passée la journée. Déjà la veille, il me semble que tu avais prévu une journée détente, c'est ça, en petit comité?
Ouais.
Comment c'était?
On a convié, par le biais du faire-part, quelques personnes de notre entourage, à savoir nos témoins, nos garçons d'honneur, nos demoiselles d'honneur, leurs conjoints et enfants, s'ils en ont, et nos parents.
Donc pour nous aider, combien, là?
On était une petite vingtaine.
Ok.
Pour nous aider à organiser le mariage, à tout préparer, à tout installer, etc. Mais vraiment, c'était une journée à la cool. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de déjeuner tous ensemble. Le frère de Nico a fait des burgers. Le soir, c'était très chouette. Il nous avait organisé une petite surprise. C'était très, très détente. Et c'était vraiment l'ambiance que je voulais. Il n'y avait pas de timing à respecter pour l'installation, l'organisation. C'était très bien. Donc, on appelait ça l'avant-première.
Ok. Et le jour J, donc ça commence par quoi?
Le jour J, ça a commencé par un bonjour avec Nico parce que j'ai dormi avec lui.
Ok.
On s'est levé, on a commencé à préparer le petit déjeuner, voir s'il manquait des choses dans la salle. Et ensuite, ça s'est accéléré à partir de 9h30 parce que la maquilleuse, la coiffeuse sont arrivées. Le vidéaste était là apparemment un peu avant et j'avais pas du tout remarqué. La photographe est arrivée aussi, donc dans la chambre qui était prévue pour mes préparatifs. On a commencé par ça et ensuite tout s'est enchaîné. Les filles, quand je dis les filles, c'est mes témoins et demoiselles d'honneur ainsi que ma maman devaient me rejoindre dans la chambre à partir de 9h30. Et donc ça a commencé par le make-up, la coiffure de chacune. Donc quand il y en avait une qui était au maquillage, une autre était à la coiffure. On a tourné comme ça, on est resté dans la chambre tout ensemble toute la matinée. Et alors que je devais faire les contrôles dans la salle, etc. Ben finalement je me suis dit je délègue, je reste ici, j'en profite. Et c'était très bien.
Donc, t'es pas sortie de ta salle boudoir préparation. Très
pas
bien.
Pas du tout. Et ensuite, je sais que les garçons ont commencé à se préparer à partir de 11h30 midi. Après, on devait partir aux alentours de 13h parce qu'on avait rendez-vous à la mairie à 14h. Sauf qu'on voulait faire la découverte avec Nico, donc tout seul. Donc, on a dit à tout le monde, on part à 13h, comme ça on était tranquilles tous les deux, avec la photographe et le vidéaste. Ensuite, on a eu la cérémonie civile à 14h. On est sorti de la mairie, il était, je crois, 14h30 ou 45, quelque chose comme ça. Ensuite, on a filé au domaine. Je me suis changée. On était trop en avance. Donc, on a attendu un petit peu. J'étais avec ma maman qui m'a aidée à me changer. Et ensuite, on a enchaîné sur la cérémonie laïque qui commençait vers 16h, 17h, je sais plus. Sachant que pour faire patienter nos invités, on avait prévu un candy bar avec des petites choses à grignoter, des biscuits personnalisés, des bonbons, des cookies, des eaux infusées, du café. On avait aussi proposé un bar à fleurs pour que nos invités puissent fleurir leur tenue dans leurs cheveux, en boutonnière ou ailleurs. Et on avait aussi proposé des éventails personnalisés pour si jamais ils avaient chaud.
Il y avait du matos quand même,
ouais.
Des choses à bien installer, à présenter.
Ouais.
Très bien. Donc, cérémonie laïque.
Tout à fait. Cérémonie laïque. Ensuite on a enchaîné sur les photos. En effet, on a commencé par une photo de groupe avec tout le monde qui s'est faite avec un drone. Et ensuite, on a fait nos photos de couple dans les vignes. Et c'était plutôt chouette. Et ensuite, on a rejoint nos invités parce qu'à partir du moment où on avait terminé la photo de groupe avec tout le monde, on a ouvert le vin d'honneur. On a eu le discours des parents pendant le vin d'honneur. À une demi-heure d'intervalle, ça a commencé par mes parents et ensuite ceux de Nico. Et ensuite, en effet, on a enchaîné sur l'ouverture du dîner avec l'entrée des mariés dans la salle de réception. On a enchaîné sur le dîner, l'arrivée de la fausse pièce montée, la pièce montée, l'ouverture de bal et la fiesta. Très bien. Ensuite, attends, dernière étape, à 1h du mat', on a fait l'ouverture du bar à shots. Voilà.
Et le lendemain, vous avez fait un brunch.
Ouais, on a fait un brunch à la cool.
Juste rapidement, au niveau du timing, vous étiez bien? Comment c'était? Vous n'avez pas eu l'impression d'être trop stressée, trop pressée toute la journée?
J'ai pas regardé l'heure.
Ouais.
Je l'ai demandé, je crois, deux fois. Et à chaque fois, on était en avance.
Et donc, t'as pu profiter de tout, t'étais pas à la course, quoi.
Ouais, pas du tout. Et c'était assez étonnant, finalement, parce que habituellement, enfin, au quotidien, je suis en retard. D'ailleurs, je suis arrivée en retard chez toi, je suis désolée. Je me suis même pas excusée pour le retard.
Bah arrête, il n'y avait rien du tout.
Oui, mais quand même, je suis très souvent en retard. Et donc là, exceptionnellement, cette journée-là, tout s'est hyper bien goupillé.
Parce que généralement, on entend l'inverse, tu vois.
Mais
la
oui.
La journée est passée trop vite, tatata. Ouais.
Et non, vraiment, ça s'est très, très bien passé.
Très bien. J'espère que cette première partie vous a plu. Dans l'épisode suivant, vous verrez, Tida nous partage tous les moments forts de son jour J, de la cérémonie laïque et son fou rire au moment de prononcer ses vœux, aux animations qui ont rythmé leur journée, en passant par le choix des cadeaux d'invités. Encore un bel épisode fort en émotions. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné des idées pour vos préparatifs de mariage. N'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous pensez qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oubliez pas de lui partager cet épisode, je suis sûre que ça lui rendra service. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles confidences. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just